Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois, je suis très heureux de recevoir Giovanni Dottoli, que je considère comme étant un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand francophile italien, personnage emblématique de l'Université de Bari, qui est vice-président de l'Université de Bari. Giovanni Dottoli est professeur de langue et littérature française à l'Université de Bari. Il a de nombreuses décorations, bien entendu, et surtout, sa présence ici est quelque chose de merveilleux parce que c'est aussi un grand prix de l'Académie française. Et je dois dire que c'est un travailleur infatigable, comme je l'écrivais dans un de mes livres qui s'appelle « Désir francophone, désir francophile », où je dessine un portrait de ce personnage qui est à la fois un ami et vraiment un homme qui aime la France, qui est un francophile émérite. Et l'auteur, alors je n'ose même plus le dire, parce que je vais épouvanter ceux qui ne lisent pas beaucoup, mais nous sommes à une radio où les gens lisent énormément. Nous avons maintenant 900 000 auditeurs, donc c'est quelque chose de très beau. Et auteur de très nombreux livres, je crois une centaine, si je ne me trompe pas. Et Giovanni Dottoli, aujourd'hui, je le reçois parce qu'il va nous parler, nous allons nous entretenir de trois de ses livres, qui sont des livres, il faut bien le dire, extrêmement importants, fondamentaux. Tout d'abord, dans cette première émission, cette première partie d'émission, je veux dire, les défis de l'université européenne au XXIe siècle, aux éditions Baudry et compagnie éditeurs. Nous parlerons ensuite, dans une autre émission, du poète Yves Bonnefoy, qui est probablement le plus grand poète français contemporain. Et enfin, nous évoquerons ce livre absolument sublime que je conseille à tout le monde, comme d'ailleurs les deux que je viens de citer, mais qui est un livre absolument exceptionnel. Je ne sais pas comment ce cher Giovanni Dottoli fait pour écrire autant de belles choses. La voix de Montaigne, langue, corps et parole dans les essais aux éditions Lanor Littérature, un livre qui, à mon avis, devrait certainement recevoir un prix cette année. Mon cher, cher collègue, cher ami, alors, l'université, quels sont les défis de l'université européenne? Vous avez bien dit européenne au XXIe siècle. Quels sont-ils, ces défis?
Premièrement, je voudrais remercier mon ami Axel Mauger, le professeur Axel Mauger, de m'avoir invité. Puis Canal Académie, qui me reçoit la deuxième fois. Donc pour moi, c'est vraiment un grand honneur. En italien, en européen et en méditerranéen que je suis, d'être reçu ici, au cœur de la culture française. Et remercier tous les éditeurs qui, éventuellement, vont suivre les trois émissions que vous allez me consacrer. Ce premier livre, concernant les défis de l'université européenne au XXIe siècle, c'est un livre qui est né de mon expérience de 40 ans de travail, de présence à l'université, en tant que chercheur, en tant que professeur et en tant qu'administrateur. J'ai été, je suis vice-président de mon université. Je rappelle que c'est la troisième université italienne. Elle a 70 000 étudiants, 2 000 professeurs, 2 000 cadres administratifs. Elle a créé d'autres universités dans la région, donc c'est une grande université. Et au fur et à mesure que j'ai occupé des postes de responsabilité, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème immense concernant l'université au sens total. Université au point de vue local, donc son rôle dans le réseau régional, départemental, son rôle sur le plan national. De fait, on parle en Italie, mais même en Europe, de système universitaire national. Cela signifie qu'il s'agit d'un réseau que toutes les universités d'un pays doivent travailler ensemble selon un projet.
Il y a une question qui me brûle les lèvres et donc j'ai hâte de la poser. C'est la question, est-ce que justement tous ces étudiants européens ont-ils une culture européenne, je veux dire, à part leur culture nationale? Je veux dire, par là, je me souviens que, jeune étudiant, ou même lorsque avant de terminer le baccalauréat, nous allions vers quelques Italiens, vers quelques auteurs russes, quelques auteurs anglais. Mais aujourd'hui, où en est ce travail?
C'est une question fondamentale. Parce que jusqu'à ce moment, ce sont surtout les comparatistes qui se sont un peu, pas beaucoup, occupés des liens entre les cultures dans le but d'envisager une culture européenne réelle. Mais jusqu'à ce moment, il suffit de dire qu'on n'a aucune chaire de cultures européennes dans aucune université de l'Europe. Alors, ça, c'est déjà très grave. Donc, il faudrait créer des postes appelé, je ne sais pas comment, mais cultures européennes. On a des disciplines autour de l'idée de l'histoire de l'Europe.
Mais l'histoire n'est pas tout.
Il faut élargir au maximum. Et si on pense à l'art, si on pense aux littératures, aux langues, parce qu'il y a un problème de langue, de lien entre ces langues-là. Alors, en revenant, disons, au projet de ce livre, je me suis rendu compte qu'il y a d'un côté donc, ce système national, chaque université fait son devoir, bien sûr, mais parfois sans que les universités se parlent. Donc parfois, dans la même région, on fait les mêmes choses. Et ce n'est pas bien. On va créer des fous et pas des étudiants qui servent à la nation. Et surtout, et c'est le titre de mon livre, là, c'est l'université européenne. Pourquoi? Parce que les ministres de l'éducation de presque tous les pays européens se réunissent de temps à autre, tous les ans ou tous les deux ans, et ils lancent des principes, mais qui restent des principes, malheureusement. Le grand problème maintenant a un double chemin. Le premier problème, c'est l'harmonisation du système universitaire européen, ce qu'on appelle en France le 3 plus 2 plus 3. Hein? En italien, 3 plus 2 plus 3, c'est la même chose. Ce qui est né à Bologne il y a une dizaine d'années, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de cette célèbre université, les ministres de l'époque se sont réunis en pensant à une idée d'université européenne, dans le sens que, bien sûr, chaque pays a ses universités, mais il faut quand même que, pour respecter le traité de Maastricht...
Ça remonte donc à 10 ans.
Il y a 10 ans, l'idée. L'idée a commencé il y a 10 ans.
Ah oui, c'est récent.
C'est très récent. Et alors maintenant, on est en train d'harmoniser les systèmes. C'est-à-dire que...
Même avec cette crise que nos universités traversent en France,
sûr,
en Italie
et ailleurs. C'est un problème qui est relié, bien sûr, à la question de l'harmonisation.
Ah oui.
Nous, en Italie, on est bien en avant. On a commencé il y a 5-6 ans. Donc, on a déjà les premiers résultats d'un système, si ça marche ou ça ne marche pas. La France a commencé il y a 2 ans, un peu en retard. Probablement, c'est même mieux parce qu'on va corriger plus rapidement les fautes éventuelles. Et alors, il faut qu'il y ait réellement en Europe une libre circulation des personnes et des biens. Libre circulation des personnes, ça signifie que si je suis dentiste, je peux exercer ma profession à Rome, à Berlin, à Londres, à Madrid, n'importe où, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais pour faire cela...
Oui, mais il y a un problème de diplôme.
Il faut que les systèmes... Voilà, mais pour les diplômes, on a pensé à l'harmonisation des diplômes, c'est-à-dire l'architecture
des filières
est la même en Europe, sur le papier pour le moment.
Oui,
hein.
D'accord. Oui, j'imagine.
Alors avec le système des crédits, en laissant, disons, une certaine liberté à chaque pays, parce que chaque pays a sa culture, sa tradition, ses profs, etc. Mais ça marche déjà. Moi, je crois beaucoup dans ce système. Je pense qu'en quelques années, on pourra vraiment parler d'université européenne réelle.
D'ici combien de temps, vous pensez?
4-5 ans.
4-5 ans,
parce que désormais, le système est parti. Il est tellement fort, le système, malgré tous ces problèmes, que la rive sud de la Méditerranée commence à s'harmoniser sur cela. L'Algérie, la Tunisie... L'Égypte même commence à se dire, bon, il faudrait un peu copier le même système. Et cela va vers un avenir de coopération en Méditerranée.
Alors ça, c'est magnifique parce que je pense, prenons par exemple un pays comme le Danemark. Il y a au Danemark, quels sont les auteurs français, italiens, allemands, anglais, très appréciés d'une partie de la population, enfin de celle qui lit, évidemment.
Généralement, les auteurs, c'est toujours les mêmes. Et je signale aux auditeurs qu'il y a un livre important qui vient de paraître, c'est le premier d'un ami à moi qui s'appelle Guy Fontaine. Et l'autre auteur, c'est une dame qui enseigne dans les écoles secondaires françaises, Annick Benoît. Alors le livre, c'est « Littératures européennes », au pluriel. Il a paru chez De Boeck.
Ah oui, très bien, très bien.
Et alors, c'est le premier livre qui pose vraiment un lien entre toutes les littératures de l'Europe, de Moscou jusqu'à Lisbonne.
Oui, donc
et
c'est
de Londres à Malte,
ah oui,
si tu veux.
Tout à fait,
et donc, je pense que ça va venir. On aura vraiment des chaires, des postes de professeurs de littérature européenne. Parce que l'Europe, ce n'est pas seulement la politique, ce n'est pas seulement les chemins de fer, les transports, le lait, l'agriculture, c'est beaucoup plus.
On pourrait dire que c'est si peu la politique dynamique, c'est beaucoup l'économie et c'est trop peu la culture.
Et c'est ça
je
le drame.
Dire ça, c'est le drame.
Il faut renverser les choses avant la culture, avant le système de l'université européenne et après il sera beaucoup plus facile et plus productif d'avoir de l'économie européenne, de la monnaie européenne avec tous les problèmes qu'elle nous a causés, mais probablement parce que derrière, il y a un manque de culture. Donc, je disais, la première chose, c'est l'harmonisation du système universitaire européen d'après ce qu'on appelait le processus de Bologne. C'est désormais partout, c'est dit comme ça. Mais nous avons un deuxième problème gravissime. C'est celui du changement de l'université par rapport à la modernité. Nous avons gardé une université ancienne, trop centrée sur le culturel, sur, pas de lien avec la société, pas de lien avec le monde du travail.
Un peu la tour d'ivoire.
Avec la professionnalisation. Je lance l'idée que la mission de l'université européenne qui est là devant nous, et nous pouvons gagner ce pari, doit être double dans un système qui soit monôme, mais double. D'un côté, la tradition de Humboldt, cette université qui est née à Berlin à la fin du XVIIIe siècle, donc la formation générale, la culture, l'humanisme, tout cela, c'est essentiel. Mais c'est le premier chemin de la formation. Le deuxième, c'est la professionnalisation. Il faut que les entreprises, l'industrie, tout le monde de l'économie soit dedans avec et pour l'université. Ils travaillent ensemble. Jusqu'à ce moment, il y a eu une grande séparation dedans.
C'est pas facile à faire.
Si on ne fait
absolument
pas cela, les États-Unis vont nous manger parce qu'ils ont déjà résolu ces problèmes-là. Ils ont un autre problème, ils sont plutôt du côté de l'entreprise et peu du côté de la culture.
Et donc
il faut corriger le système.
Donc, pour conclure sur ce, bien entendu, un débat immense, etc. Mais d'ici combien de temps peut-on arriver à ces deux objectifs?
Moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Si on veut que nos jeunes, nos étudiants trouvent du travail, soient à l'aise, soient heureux, parce qu'il faut être
heureux
dans la vie,
ça leur plaise.
Moi, je pense qu'en 4-5 ans, on pourrait rejoindre les objectifs qui sont lancés dans mon livre, dont tous les ministres
parlent. Ça mériterait un débat beaucoup plus vaste, évidemment, mais nous y reviendrons certainement à l'occasion.
N'oublions pas ce qui s'est passé en France. L'histoire du CPE, par exemple. Alors, l'histoire du travail, parce que le monde des étudiants français, mais italiens, allemands, anglais, européens, disons, est inquiet. Est inquiet, pourquoi? Parce que les étudiants, qui sont des aigles, ils voient mieux que nous. Ils n'arrivent pas à voir leur place dans la société quand ils sortent de l'université. Donc, il faut que l'université s'occupe de la professionnalisation de ces systèmes.
Sur cette parole absolument magnifique de Giovanni Dottoli, vice-président de l'Université de Paris et un savant, un humaniste, qui dit, souvent on parle des étudiants de façon un peu péjorative, car les étudiants sont des aigles, ils voient, mais ils se demandent aussi quelle est leur place dans la société. Et ça, c'est une parole magnifique. Alors, je remercie les auditeurs, je leur signale qu'ils peuvent parfaitement télécharger gracieusement cette émission. Et nous allons passer maintenant à une deuxième entretien avec Giovanni Dottoli sur un poète qui est apprécié de tous ceux qui vraiment apprécient la poésie dans ce qu'elle a de plus intense, de plus belle, de plus énigmatique, celle de Yves Bonnefoy.